Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons reprendre cette semaine la marquise de Tencin, témoin du XVIIIe siècle, des frivolités de la monarchie à la République, et c'est un livre de Georges Labrousse. Alors, on va laisser la marquise de Tencin se reposer, et puis on va voir un peu ce qui se passe en Périgord. Alors, il y a la fabrication des meules. Alors, les meules, bien sûr, c'était quelque chose d'important à l'époque. Alors, au XVIIIe siècle, en Périgord, des moulins étaient nombreux sur les rivières et les ruisseaux. Pour les faire fonctionner, il fallait des meules de pierre, aussi bien pour écraser le grain, afin d'obtenir la farine que pour presser les noix pour faire de l'huile. Leur poids très important dépassait souvent la tonne, nécessité de les fabriquer le plus près possible. Alors, la plaine de Bord, vaste plateau de 4 km carrés, situé au sud-est de Dôme, connaissait une intense activité. L'extraction de la pierre meulière, constituée de quartz silex, ces carrières se situaient principalement sur les bords du plateau. Alors, au début, pendant l'Antiquité, on procédait en surface, on utilisait la roche effleurant du sol, puis on se mit à creuser de plus en plus profondément. On extrayait des meules entières mesurant 70 à 170 cm de diamètre sur 35 cm d'épaisseur. Si les couches creuseuses le permettaient, les plus grosses pouvaient atteindre 2 tonnes, sinon on levait des quartiers que l'on assemblait en les cerclant de métal pour obtenir une meule circulaire. On appelait ces meules des meules en carreau. Une bonne centaine d'ouvriers s'activaient sur la plaine de Bord pour l'extraction de la pierre que l'on atteignait après avoir creusé 1 ou 2 mètres de limon ou d'argile sableuse, des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, car on travaillait souvent en famille, assurait le déblaiement et allait déverser cette terre inutile au bord du plateau. Du haut de la falaise, c'était le décroutage, c'était quand même un travail à faire, le décroutage du meunier. Alors, mes métiers qui se transportaient souvent de père en fils, n'étaient pas faciles. Les éléments inutiles enlevés, on traçait un cercle compas sur le roc, avec le couperet et un marteau possédant un biseau, on détachait les blocs saillants, on creusait tout autour une tranchée de 30 à 40 cm de large, et autant de profondeur à l'aide d'un pic à tête pointue. Avec des coins en fer, en bois, on disposait à la base du cylindre obtenu par le carrier, on enfonçait la masse, on détachait la meule du sol pour creuser le trou central. Les meuliers se servaient d'une baramine, on la tenait et la faisait tourner pendant que 2 autres frappaient dessus alternativement. De temps en temps, verser un peu d'eau dans le trou pour faciliter le perçage, mais il était nécessaire de reforger la barre à fer très souvent. Une fois la pierre détachée du rocher, on la retournait avec de grandes barres de fer, on aplanissait la deuxième face, puis on faisait planifier le caillou et écarrir les côtés du bloc avec le têtu. Alors le têtu, c'est une sorte de masse qui pouvait atteindre 18 kilos. L'hiver engourdissait les doigts qui enserraient la barre ou le burin. L'été, le métal des outils était brûlant. La pluie faisait partie, elle aussi, des ennemis redoutables. On pataugeait dans la boue et on avait du mal à se protéger. Mais surtout à l'époque, les imperméables n'existaient pas beaucoup. Alors, dans les conditions météorologiques qui étaient trop mauvaises, ces hommes qui étaient souvent des paysans se tournaient vers une activité qu'ils pouvaient exercer à l'abri, la fabrication du feuillard, là sous une cabane à l'ossature constituée de jeunes châtaigniers entrelacés et recouverts de copeaux, ils pouvaient fendre les jeunes pousses de 4 à 5 ans pour en faire des cercles de barriques. Le débouché était à proximité puisque le vignoble des coteaux de Dôme s'étendait tout près de là. La manipulation des fûts sur le quai d'embarquement nécessitait une protection efficace et le feuillard l'apportait. Alors, bien sûr, les cabanes à feuillard fonctionnaient encore il y a quelques années. Je vous rappelle, en allant chercher les champignons, on trouvait dans les bois des restes de cabanes en feuillard. Après, on pouvait les faire à l'abri, bien sûr, à la ferme. Alors, on pouvait les faire rouler sans crainte de leur éclatement. Les moulins étaient nombreux dans le Sarladais. Une partie des meules était vendue dans les environs proches des carrières, dont possédait 3 moulins, dont 2 à vent. La production de farine et la fabrication d'huile de noix sur place dépendaient du bon fonctionnement des meules. Cependant, la demande pouvait provenir de moulins plus lointains. Dans ce cas, les meules étaient chargées sur des charrettes à bœufs renforcées, appelées fardiers, qui les charriaient jusqu'au bon d'Adon, dont il allait gabar les emporter vers Bergerac et parfois Bordeaux. Le transport était payé par l'acheteur et cela représentait quand même une somme importante. Ben oui. De même, dans le nord du Périgord, Saint-Crépin-de-Richemont, village proche de Brantôme, possédait un gisement de grès exploité pour la fabrication des meules. Là, pour le transport, on procédait différemment. Les meules étaient acheminées jusqu'à mi-chemin du moulin destinataire. Le reste du trajet était à la charge du meunier. Mais ça devait quand même faire une belle somme. Le voyage pouvait durer parfois plusieurs semaines, car les livraisons étaient assurées pour Périgueux, Limoges ou Angoulême. Arrivé à bon port, le prix de la meule pouvait atteindre celui d'une parcelle de terre ou d'une maison. Oui, c'est ce que je disais, c'était servi quand même cher. Le 27 janvier 1724, le meunier Chollet du moulin de Pinard de la paroisse de Bourdex, près de Nontron, paya 35 livres au bouvier qui avait effectué la livraison d'une meule que le meulier lui avait vendue 55 livres. Les prix ont augmenté tout au long du 18e siècle et malgré cela, les meuliers se sont appauvris. Ben oui. Les demandes étaient peut-être quand même peut-être moins chaleureuses. Malheureusement, des accidents ont été relevés sur le trajet car les conditions de transport de ces matériaux lourds sur des chemins souvent chaotiques étaient difficiles. Et ainsi, en juillet 1787, un bouvier de Saint-Crépin de Richemont mourut coincé entre sa charrette et un châtaignier au bord du chemin malgré les efforts de ses deux compagnons. Alors, l'âpreté du travail faisait que les meuniers, avec la réputation d'hommes frustes, rudes et quelquefois bagarreurs, qu'on appelait parfois des Hercules, il fallait éviter les disputes avec eux. On dit qu'en 1681, à Saint-Crépin-de-Richemont, certains d'entre eux avaient hissé une nouvelle cloche au sommet de l'église. Comme ils trouvaient que le curé n'avait pas servi assez de vin, ils le frappèrent l'ecclésiastique et déchirèrent sa soutane. Voilà, on va passer un peu autre chose. C'est vrai que c'était quand même des travaux quand même assez rudes. Alors, il y a le salon de Madame de la Brousse. Alors, en Périgord, les salons s'ouvrirent également aux esprits désireux de se rencontrer pour discuter littérature et philosophie. Ce fut le cas chez Madame de la Brousse, comtesse de Verteillac. Alors, je ne sais pas si c'est une parente de Georges Labrousse qui a écrit ce livre. Alors, parmi les Périgourdais érudits à l'époque, bien sûr, il y a la grande chancelle. On se fit remarquer très tôt, à 15 ans, il écrivit sa première tragédie, Jugurtha. Il fut félicité par Racine, qui le prit sous sa protection. Il donna plusieurs tragédies à la Comédie française, puis en délicatesse avec le Régent. Il fit paraître des Philippiques, une série de 5 odes pamphlétaires, très violentes. Il fut donc incarcéré, réussit à s'évader et ne revint en France qu'en 1729. Là, dans son château d'Antoniac, sur la commune de Razac-sur-l'Isle, il se consacra au théâtre et à l'histoire du Périgord. Bon, il y a d'autres personnages, évidemment. Il y a Bertrand de Labourou, gouverneur et maire de Montpazier, qui écrivait aussi, on lui doit la tragédie, Alphonse en Aquitaine, paru en 1721. Alors, il y a les chanoines de Chancelade, Baudot de Leidier, Prunis. Et Prunis continuèrent l'œuvre de la grande chancelle qui n'avait pu terminer son histoire du Périgord. Il étudie les documents anciens et s'intéressait aux troubadours. L'abbé Lépine, né à Valereuil en 1787, travailla à la Bibliothèque nationale et, après son retour d'exil, écrit un fonds périgordais important. Alors, Jean Marteil, alors, né à Bergerac en 1682, était protestant. Il fut persécuté et condamné à 12 ans de galère. Alors, libéré, publié à Rotterdam en 1787, les mémoires d'un protestant condamné aux galères de France pour cause de religion. Puis il y a bien sûr alors, le philosophe Jean-François Rey, Alors, lui, c'est un Bugois, hein. Alors, il est né donc au Bug, en 1728, publié à Londres une histoire naturelle, raison des deux lames, et en 1789, l'économiste Henri Guyon de la Plombadie, né à Rezac-Daimé en 1737, écrivit abondamment sur les maux dont souffrait la France, qui lui valut un séjour à la Bastille en 1762. C'était, la vie d'écrivain n'était pas toujours facile. Alors Jacques de Malville, né en 1741 à Dôme, fit paraître réflexion sur les intérêts et les prétentions des trois ordres, ouvrage dans lequel il soutenait les demandes du tiers-état et participa à la rédaction du Code civil. Alors, bon, Jacques de Malville, bien sûr, est quelqu'un de connu. Puis il y a un autre personnage, Mène de Mira. Alors Mène de Mira, c'est un philosophe. Alors, il est né à Bergerac en 1766 d'un père docteur en médecine, Jean Gontier de Biron, et d'une créole de Martinique, Camille de Ville de Vermont. Alors c'était un philosophe et homme politique royaliste, mais d'esprit novateur, observateur de la vie locale. Il fut un précurseur de la pédagogie moderne et tenta d'améliorer la situation scolaire dans le Bergeracois en lançant une école basée sur la méthode Pestalozzi. On en reparlera un jour. Et on y réservait des places pour les enfants des classes populaires. Il quitta sa carrière militaire à la Révolution et fut installé l'administration du département de la Dordogne. En 1795, après la chute de Robespierre, s'engagea dans la lutte contre la variole et créa plus tard la Société médicale de Bergerac. Alors, la Société médicale de Bergerac, c'est qu'est-ce que sont des livres? Quand même, il y a les éditions Vert ont publié, je crois, l'ensemble de l'œuvre de Mène de Mira, et qu'il faut lire, qu'il faut connaître. Alors, il venait souvent dans son manoir de Gratteloup, dans la commune de Saint-Sauveur, très influencé par Montaigne. Il écrivait, malgré son poste de député, puis de sous-préfet, plusieurs traités philosophiques sur l'inconscient. Pendant son mandat de député, il ne cessa de réclamer la reconstruction du pont de Bergerac, détruit par une crue de la Dordogne en 1783. Alors les travaux ne débuteront que 39 ans après sa destruction. Pardon. Et Mène de Mira ne verra pas l'achèvement du travail, car il mourra à Paris en 1824. Alors on va terminer rapidement. Alors, il y a un chapitre qui s'intitule En Périgord. Alors en Périgord, seulement 5% de la population vivait dans trois villes de son territoire, Périgueux, Bergerac et Sarlat. Les habitants étaient donc des ruraux. Pour une grande part, la majorité d'entre eux travaillaient la terre. L'agriculture se modernisait un peu, mais les progrès étaient lents. Ce fut surtout les grands domaines qui profitèrent des nouvelles techniques du XVIIIe siècle. La vigne se développa car le vin se vendait bien. L'eau n'était pas souvent potable. Le maïs nouvellement introduit prit de l'ampleur. Le contrôleur Jacques Bertel sur sa propriété de Bourdel ou le curé du Bug, Jacques de Minard sur ses terres de Cendrieux, firent figure de propriétaires terriens à la pointe du progrès. Mais la majorité des petits paysans innovaient peu et leur situation était fragile, tout comme celle des petits nobles peu touchés par les lumières. Alors leurs conditions étaient d'autant plus difficiles que la nature était parfois contre eux. Ainsi, en 1728, un énorme cru détruisit le pont en bois de Bergerac, qui, comme on vient de le dire, qui probablement serait reconstruit également en bois. Faute de finances suffisantes pour en bâtir un en pierre, en attendant un bac assurait la traversée de la Dordogne, puisque l'inondation avait provoqué cette destruction. Il est certain que les paysans riverains avaient vu leurs terres ravagées par le courant, comme à Limeuil, où Dordogne et Vézère envahirent leurs eaux, toute la plaine environnante. Dès le 14 juillet, le curé du village, qui n'avait jamais connu une telle crue, le nota en précisant qu'il dut se rendre sur le lieu dit. La virole embarque et ne put rentrer à la maison, dans la maison d'un paroissien, qu'en passant par la fenêtre d'un appartement haut. Le couvent et l'église du Bug, situés sur la rive droite de la Bézère, furent également inondés. Voilà, Alors je vais arrêter là cette lecture et je vous donner rendez-vous, mais ma foi, la semaine prochaine.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.